Podcast, podcast, podcast. Et un podcast sur le podcast. Hello, bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast, où on va parler justement de l'activité même de podcasting. Je suis auteur du blog en anglais The Mindset, THEMYNDSET.com, et en français de MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites qui sont cités. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans une série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien avec mon ami et ex-collègue Pierre Journel, un homme très expérimenté dans le domaine des podcasts, avec un très bon nombre d'abonnés. Maintenant, je vous invite à écouter l'entretien. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Je suis Minter Dial de The Minter Dialogue Podcast et nous sommes dans Lacombe, dans le 17e arrondissement, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre Journel, pour moi, qui m'a démarré mon expérience sur le podcast. Et avec lui, j'ai envie d'avoir un petit moment de discuter du podcast et comment faire, notamment en France. Donc Pierre, je te demande de te présenter, s'il te plaît.
Alors donc voilà, je m'appelle Pierre Journel, je fais du podcasting depuis environ 5 ans. J'avais démarré ça à l'époque où j'étais au Canada, où j'ai vécu 11 ans, mais d'ailleurs c'est là où on s'était croisé professionnellement. Et c'était une continuité en fait d'un blog, enfin c'était même pas un blog d'ailleurs, avant c'était une page web pour partager un peu notre expérience d'immigration. Et puis ayant toujours été un peu passionné de son, de gadgets, de trucs geek et compagnie, le jour où j'ai entendu parler de podcasting, je me suis offert un premier iPod. Et puis de proche en proche, j'ai découvert ce qu'était le podcasting. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi moi j'essaierais pas de partager un peu mon expérience d'immigration en causant dans le poste avec un petit enregistreur numérique, en partageant des ambiances de ce qui se passait au Canada. Donc ça allait des soirées des francopholies de Montréal, du festival de jazz, jusqu'aux des promenades audio, aller regarder des baleines dans le Saguenay, enfin bon, tout. Et puis des fois, là c'était des choses qui étaient assez exotiques, quoi, donc qui parlaient aux gens, mais des fois j'ai fait des choses où je me promenais dans la rue puis je parlais juste ce que je voyais autour de moi, quoi. Donc du coup je me suis rendu compte que les gens accrochaient beaucoup à ça, parce que l'audio permet un rapport très intime en fait avec la personne, et puis juste en écoutant, avec la force de l'imagination, on reconstruit en fait ce qu'il y a autour, quoi. Donc j'ai fait le PCC, parce que ça s'appelait le PCC, ça s'appelle toujours le PCC, donc c'était le podcast de la cabane au Canada, donc il s'appelle toujours le PCC, mais maintenant qu'on est revenu ici, donc c'est plus j'ai pas retraduit ça, mais enfin ça peut être le Parisien qui a crissé son camp, le Parisien casse-couille, chic et classieux, enfin bon, ce que tu veux, peu importe, ça reste écoutable sur lepcc.net. et bon bah là maintenant, revenu à Paris, je parle plus de mon expérience d'immigration évidemment, mais ça reste une chronique que je fais assez régulièrement. Alors le PCC, je faisais ça religieusement chaque semaine. Maintenant, je suis plus à une fois par mois, parce que depuis un an, donc j'ai démarré un autre podcast qui s'appelle La Chaîne Guitare, où là je parle que de guitare. Voilà, j'essaie de rapidement un peu l'introduction.
Et parle-nous de celui-là, La Chaîne Guitare, parce que évidemment c'est une passion, c'est quelque chose sur niche. Et parle-nous de quoi tu parles sur la chaîne guitare.
Alors, bah en fait, c'est ça. Au sein du PCC, donc je parlais de tout ce qui s'était passé dans la semaine, événements et compagnie. Puis des fois, bon, il y avait des choses qui avaient rapport à la guitare, donc j'en parlais dans le PCC. Puis c'était vraiment une chronique. Enfin, le sous-titre, c'est une chronique éclectique et passionnée, parce que c'était vraiment tout ce qui m'était arrivé. Donc, je pouvais parler de photos, de course à pied, d'immigration. J'ai interviewé d'autres expatriés. Enfin bon, et puis des fois aussi, je parlais de guitare. Et l'idée me trottait un peu de faire un podcast qui parle vraiment que de guitare. Et j'étais beaucoup influencé par un podcasteur qui s'appelle Benoît Marchal, qui fait un podcast sur la photo qui est excellent, qui s'appelle Déclencheur. Et donc lui, il ne parle que de photos, quoi. La photo sous tous ses angles, mais que de photos. Donc voilà, en fait, ça m'a pris. Donc j'ai fait 4 ans de PCC jusqu'à ce que je me dise, bah tiens, voilà, il se trouve qu'en 2009, on était revenu du Canada. Moi, j'avais un petit peu plus de temps parce que j'avais pas encore repris d'activité professionnelle. Et je me suis dit, dit, bah voilà, c'est peut-être un peu le moment ou jamais d'essayer de démarrer un podcast sur la guitare. Donc, et l'idée, bah, c'était de parler de la guitare sous tous ses angles, à la fois en la faisant écouter. Donc, avec mes guitares, je jouais un petit peu. J'ai dit, bah voilà, c'était le guitare, voilà, c'est tel type de son, mais aussi en allant à la rencontre des artistes, en faisant des interviews, en allant enregistrer avec des petits enregistreurs numériques, des balances de concerts, un peu du behind the scene. Et puis, et voilà, donc moi, c'est un vrai bonheur parce que ça m'a permis de rencontrer des idoles de jeunesse. Et puis là, je reçois des CD, on me prête, on m'envoie du matériel, je suis invité à des concerts. Donc c'est pour moi le podcasting, c'est vraiment un média idéal pour adresser des sujets de niche comme la guitare.
Alors tu as commencé le podcasting quand tu étais au Canada, tu es revenu en France en 2009. Comment est-ce que tu peux traduire ou comment est-ce que tu trouves le podcasting comme activité en France par rapport au Canada?
Alors je pense qu'en fait quand ça a démarré, enfin le podcast peut-être officiellement, ça doit être 2004, quelque chose comme ça. Moi j'ai découvert ça en 2005, j'ai commencé le PCC en mai 2005. Très rapidement, on était quelques cinglés à s'être jetés là-dessus. Et je pense qu'on est beaucoup, et moi le premier, à avoir pensé que vraiment le podcasting allait prendre tous les médias traditionnels dans un tsunami, quoi. Je pense qu'on est un certain nombre, et moi j'ai caressé aussi ce rêve aussi de me dire, bah voilà, je vais devenir une sorte de kéké de la radio, mais via le podcast. Bon, malheureusement, 5 ans plus tard, je peux un peu dire que le podcasting n'est pas vraiment sorti du placard. Pourtant, il y a eu des grosses locomotives, il y a eu des gens comme Adam Curry qui s'est surnommé ou qu'on a surnommé le Podfather, qui a fait des choses très avancées, bon, qui s'en est un petit peu désengagé depuis, mais le podcasting n'est pas vraiment sorti du placard. J'arrive pas à m'enlever cette expression de l'esprit. Alors en France, alors là encore plus. Il y a eu une époque, il y avait Bertrand Lenôtre, moi que j'idolâtre complètement, que je recroise régulièrement, qui a fait des choses passionnantes. Ça s'appelait Le Podcaster, et je pense que c'est toujours disponible à lepodcaster.com ou podcaster.com, podcaster UR. Et alors c'est un ancien de la radio, donc évidemment toute la partie audio il la connaissait très bien, il savait faire une interview, donc il faisait une sorte de chronique un peu internationale, Guy, qui était vraiment super bien faite. Malheureusement au bout d'un moment il a arrêté, il est passé un peu à autre chose, il y est un peu revenu, mais il y a pas eu de locomotive, quoi, hein. Et le truc un peu embêtant maintenant, c'est que les gens font le synonyme entre podcast, c'est uniquement un moyen de rediffusion d'un contenu qui existe déjà. Donc ça me permet d'écouter Les Grosses Têtes, Le Fait Politique d'Alain Duhamel, 2000 ans d'histoire de France Inter, des choses comme ça. Alors oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et en fait, très peu de gens connaissent encore que ça permet d'accéder à un contenu de podcasteur indépendant, mais qui est d'une richesse incroyable, quoi. Alors c'est vrai, je mets des guillemets, enfin des bémols autour de ça, c'est la richesse, elle est là en anglais essentiellement. En français, moi j'écoute relativement peu de podcasts en français, à part le podcast Déclencheur qui parle de photos. Sinon, tous les podcasts que j'écoute très régulièrement, ils sont américains, en fait.
Je suis d'accord avec toi. Alors, si tu es, comme tu as 2 podcasts, quelles sont les consignes que tu donnerais pour réussir la création de podcasts? Comment tu cadres la façon de faire des podcasts pour réussir au maximum?
Ah, je pense déjà qu'il faut avoir un thème. Soit il faut avoir un thème, soit il faut être passionné. Alors, par exemple, moi, dans le PCC, il n'y avait pas vraiment de thème. C'était une chronique. Donc voilà, le thème de départ, en tout cas, c'était l'immigration. En fait, après, c'était un peu élargi parce que je racontais un petit peu ce que je voulais. Mais alors, du coup, ça crée une connexion assez intime parce que finalement, les gens qui écoutaient le PCC, c'est les gens qui étaient intéressés par ma petite vie, finalement. Parce que d'une semaine à l'autre, je pouvais parler de photos, mais après, je pouvais parler de quelque chose de complètement différent, quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment... le thème initial c'était l'immigration. Sinon c'est le avoir un thème bien pointu. Donc par exemple la guitare, ça c'est idéal parce que là on peut adresser plein de sujets autour de la guitare, ça soit le guitariste lui-même, la musique, l'instrument, les techniques d'enregistrement, enfin bref, il y a pas de limite. Et évidemment, il y a un fit naturel entre la guitare et puis le podcasting puisqu'il y a toute cette dimension audio. Pardon. Mais par contre, ce qui est très important, il faut avoir un thème, mais c'est la régularité. Ça, c'est capital. Je mettrais même quasiment ça en numéro 1.
C'est quoi la régularité?
C'est très important de publier des émissions régulièrement. Alors, Il y a eu beaucoup de gens qui ont pas de fédé parce qu'ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de boulot, puis que du jour au lendemain, ils n'avaient pas 20 000 auditeurs, quoi. Donc c'est très important d'avoir une régularité, et que ça soit une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, parce que les gens, l'homme est une créature d'habitude, et s'il s'est habitué à écouter Minterdial une fois par semaine, une fois par mois, il va trouver ça bien, et puis la fois d'après, il va être là, il va être prêt d'écouter. Puis si toi tu rates un ou deux trucs comme ça, que c'est une fois tous les deux mois au lieu d'être une fois par semaine, le mec il va se dire attends, il est pas fiable ce gars-là. Enfin, les gens sont très habitués au format de la radio, donc le format de la radio, ils savent que à 20h30 ils sont capables d'écouter tel truc, ou c'est à midi qu'ils entendent l'émission et compagnie, quoi.
Donc de décider que ça va être hebdomadaire, et je vais le livrer le jeudi après-midi à 7h, et donc tenez-vous à cette régularité.
Ouais, très important. Alors hebdomadaire, c'est assez exigeant, mais moi ce que j'avais fait avec le PCC, bien que maintenant je crois passer plus à un rythme mensuel, c'est que je publiais chaque semaine. Alors des fois j'avais pas grand-chose à dire, donc l'émission elle pouvait durer 5-10 minutes, quoi. Puis des fois j'avais promené mon iRiver à l'époque avant de passer au H2 dans plein d'endroits, donc j'avais pas mal d'audio à publier. Puis là je pouvais faire une émission de 30-45 minutes, quoi. Mais chaque semaine il y avait un rendez-vous entre guillemets, et puis les gens étaient là pour écouter. La régularité capitale.
Et comment tu te prépares pour faire tes podcasts?
La préparation, il y a plusieurs, si je prends le cas du PCC, la préparation c'était un peu au fil de la semaine, où je notais sur un papier à l'époque, maintenant c'est sur un iPhone, mais les idées, où tiens, tel thème, il m'arrivait telle chose, je peux en parler, ou comme maintenant j'ai toujours l'iPhone avec moi, je peux enregistrer un peu d'audio, puis le réutiliser par la suite. Donc la préparation c'est simple. Après, au moment de l'émission, j'ai mes quelques show notes, j'ai mon matériel pour enregistrer, et puis je roule, quoi. Donc moi le format il a toujours été assez le même. Je fais une petite introduction, j'ai mes deux trois sujets dont je veux parler, ou alors qui sont des clips audio que j'insère, sur lesquels je commente par la suite, et puis voilà, quoi. Puis si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Si ça part, ou que je me dis tiens, je rencontre, j'ai plein de choses à dire, ça dure 20 minutes, et puis voilà, quoi.
Alors par rapport aux outils que tu utilises, qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour réaliser un podcast?
Au niveau des outils, c'est le minimum, c'est un ordinateur avec un micro, quoi. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je pense les deux premières années du PCC, il se trouve que c'était un PC portable, et puis j'avais un micro, enfin j'avais déjà un petit peu de matériel audio vu que je joue de la guitare, mais maintenant on trouve des micros USB, une poignée d'euros qui font très bien l'affaire, quoi. La chose qui est problématique, c'est plus de maîtriser un peu des notions d'audio pour que après ce qu'on va faire soit écoutable correctement. Mais au niveau du matériel, c'est juste un PC avec un micro qu'on peut brancher. Et puis moi j'écoute des podcasts qu'on démarrait au début avec juste un petit micro qu'on branchait sur la petite entrée audio du PC. Il n'y a même pas besoin d'avoir une interface fancy audio, quoi.
Ça c'est le cas où tu as l'entretien, enfin où tu fais le podcast avec l'ordinateur. Mais ici, ouais, on est ambiant comme on est actuellement dans le bar où on est. Qu'est-ce que tu utilises?
Alors c'est ça, ça c'est le premier cas de figure, où, parce qu'il y a des gens qui font du podcast que chez eux à 100%, quoi. Alors si on veut sortir, se promener, partager les ambiances, faire des interview comme ça, mobile, comme tu es en train de le faire. Moi, initialement, j'ai commencé avec un petit enregistreur numérique qui s'appelait iRiver, de la marque iRiver. C'était un IFP 795 qui avait le très bon goût. On pouvait brancher un petit micro externe, et puis qui avait quand même assez de gain pour être à la fois minuscule et puis être capable d'enregistrer comme ça. Depuis quelques années, je suis avec un H2, comme celui que j'ai sous le nez actuellement, qui est très compact, qui coûte, je pense, 150-200 €, quelque chose comme ça, et qui a une très bonne qualité audio. Donc ça, c'est parfait, ça tient dans la poche, ça fonctionne avec deux piles, c'est indestructible.
Donc en fait, c'est pas très cher de le faire. Le problème est plutôt le cadre, et qu'est-ce qu'on va dire, et le contenu, qu'est-ce qui est cher. Alors, maintenant, on a parlé des outils, donc le micro, etc. En termes de plateforme d'enregistrement, qu'est-ce que tu utilises?
Alors, au début, j'utilisais, j'étais sur plateforme Windows, et puis j'utilisais un logiciel libre qui s'appelle Audacity, qui est très bien foutu, puis qui est parfait. Enfin bon, il n'y a pas besoin, c'est un magnétophone numérique, en fait, qui permet en plus de faire des choses un petit peu plus savantes au niveau de la réduction du bruit, au niveau de la compression. Enfin bon, c'est vraiment un logiciel qui est très bien foutu, qui existe d'ailleurs sur toutes les plateformes, que ce soit Windows ou Mac. Quelques années après, je suis passé sur macOS et là depuis, je fais tous les enregistrements via GarageBand. Donc j'ai un micro, c'est un Sempiternel Sennheiser SM58 qui est branché sur l'interface audio, qui est elle-même raccordée en FireWire sur le MacBook. Et voilà, c'est ma chaîne audio complète, quoi. C'est relativement simple.
Et comment t'as fait pour apprendre comment utiliser GarageBand?
Alors bah, moi étant musicien, bon, j'ai joué avec très rapidement. Pour moi c'était le bonheur, parce que je me rappelle encore de l'époque quand moi j'ai enregistré des premières maquettes avec mes premiers groupes, où c'était des magnétophones 4 pistes, où bon, il fallait quasiment louer ça, un studio, enfin bon, avec une qualité qui était relativement approximative. Alors que maintenant, avec des outils comme GarageBand sur macOS, enfin bon, on a une infinité de possibilités. Alors, pour répondre précisément à ta question, j'ai acheté un bouquin de David Bogue qui a fait toute une série, les Missing Manuals. Donc, j'ai acheté le Missing Manuals de GarageBand et qui m'a appris, je pense, tout plein de choses très bien. Parce qu'il y a des choses, GarageBand, c'est un logiciel qui est fait pour faire de la musique, mais il y a aussi tout un volet podcasting qui est très bien foutu et qui permet, par exemple, on peut faire afficher un petit clavier virtuel sur son écran d'ordinateur, on peut être en train de parler, voilà, blablabla, et puis appuyer sur une touche du clavier pour déclencher un petit clip sonore, une petite virgule sonore pour illustrer, quoi. Donc là, c'est inclus dedans, ça fait partie des choses où il n'y a rien d'autre à faire, quoi.
Enfin, c'est assez intuitif, mais c'est vrai qu'une fois que tu as goûté, tu apprends, et encore une autre couche, et puis on découvre au fur et à mesure de l'utilisation. Parfois en regardant, j'ai un problématique, je vais regarder sur les forums et on le découvre et ça se permet. Et maintenant, bon, on a les outils, tu utilises la plateforme GarageBand et ensuite la mise en ligne. Comment ça se fait en mise en ligne et la distribution?
Alors, ce qui est très important de comprendre avec le podcast, c'est qu'il ne faut pas confondre page web ou blog et le podcasting. Hein. Donc, on parle quand même si maintenant, au niveau bande passante, ça a beaucoup progressé depuis 5 ans, même depuis 10 ans, quoi. Bah, c'est quand même des fichiers qui sont relativement volumineux. Donc, si on veut tenir un peu le coup en podcasting, on n'héberge jamais ces fichiers audio ou vidéo sur le même endroit où on héberge son blog, quoi. Il y a eu l'époque glorieuse au début où les gens mettaient ça sur Free et compagnie, et puis ceux qui sont mis à avoir un petit peu de download se sont fait virer de leurs prestataires, parce qu'évidemment ils explosaient les bandes passantes des fournisseurs internet. Donc faut avoir une solution d'hébergement du blog, qu'elle soit gratuite ou pas. Moi j'utilise que du gratuit par exemple pour le blog, et une solution pour l'hébergement audio. Donc moi dans mon cas, que ce soit pour le PCC ou pour la chaîne guitare, j'utilise un hébergeur qui est en business depuis très longtemps et qui s'appelle Libsyn, qui est la contraction de Liberated Syndication, donc ça s'écrit L-I-B-S-Y-N, et qui est payant. Donc moi ça me coûte, alors ils ont une offre de base genre à $5 US par mois, qui permet d'uploader jusqu'à 50 mégas par mois, et ensuite par contre tous les épisodes restent en ligne avec une bande passante consommée qui est illimitée, quoi. Donc moi par exemple avec la chaîne guitare, je fais donc 3-4 émissions, enfin 4 émissions générales par mois, donc j'ai pris le forfait qui est un peu au-dessus, qui doit être, je sais plus, à $15 US par mois. Et donc là du coup après, moi j'ai juste à poster, à mettre en ligne, il y a toute la mécanique RSS qui existe, qui est en place, et voilà. Donc après l'hébergement audio, moi j'ai pu à m'en soucier, quoi.
Alors toi comme moi, on est assez mordu sur l'idée des podcasts, on a cette culture, en venant d'Amérique du Nord on en a entendu plein, on vient en France et on est tous les deux convaincus que c'est pas encore acheté en France, mais pourtant comme moyen de communication tu y crois. Donc qu'est-ce qui fera que ça marchera en France?
Ça c'est une grande question qu'on m'a déjà posée. Franchement j'ai pas beaucoup la réponse. Ce qui est sûr, alors bon, ceci dit, ce que je veux dire n'est pas vraiment spécifique à la France, c'est que si c'était quelque chose qui était plus ubiquitous, comme on dit en anglais, plus facile d'accès. Il n'y a pas que l'iPhone dans la vie, quoi. Mais si au moins sur l'iPhone il y avait une icône podcast, ou qu'on appellerait Internet Radio, peu importe comment on l'appelle, Déjà, ça faciliterait un peu les choses parce que Apple a un peu joué toujours un peu un double jeu par rapport à ça. Ils ont un peu profité du phénomène podcast parce qu'il y a le pod qui vient de iPod. Alors bien qu'on n'a pas besoin d'avoir un iPod pour écouter un podcast, mais ils ont un peu entretenu cette confusion. Faut voir qu'ils sont venus un peu après la bataille, après le podcasting. Moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, iTunes ne supportait pas le podcasting. Donc, il fallait passer par des trucs style Juice ou iPodder, des choses comme ça, pour récupérer ce contenu-là. Alors maintenant, ça, c'est sûr que ça pourrait aider. Il faudrait qu'il y ait une locomotive qui fait que les gens, qu'il n'y ait qu'un contenu qui soit exclusivement besoin, qui soit accessible sur podcast. Je pense que ce qui manque, c'est aussi que les gens réalisent l'accès qu'il y a, qui est possible au niveau de la richesse du contenu, quoi. Donc, je reviens à Benoît Marchal de Déclencheur, parce que pour moi, c'est un peu une des références du podcast francophone sur, on peut faire un contenu de très haute qualité sur un sujet qui est assez ciblé. Là, c'est sur la photo, en l'occurrence. Et puis, toucher, alors je sais plus, je connais pas précisément ces chiffres, mais enfin, on est au-dessus de 10 ou 15 000 personnes qui un mode à chaque émission son truc, donc c'est quand même assez important, donc preuve que c'est possible de le faire. Mais à une époque, il y a eu un Bertrand Lenôtre qui était quasiment notre Adam Curry. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, quoi. Donc je pense tout reste encore à faire, et pourtant c'est un média qui est passionnant et qui est, moi, enfin c'est ma conviction intime, on avait cette grande discussion avant de commencer l'interview, je pense que ça permet d'adresser très bien des médias de niche assez pointus, quoi, style la guitare, la photo, mais ça peut être la pêche à la ligne ou que sais-je encore.
Et puis en plus, en termes de consommation, ce que je trouve intéressant dans le podcasting, c'est que c'est en complément des autres médias qu'on consomme, et que si on parle des transports, il y a le fameux 20 minutes qui correspond forcément aux 20 minutes de typique moyenne de commute. Et puis il y a des gens qui font de la course à pied comme toi, qui fait le marathon. Donc ça, c'est des moments privilégiés pour écouter l'iPod, enfin le baladeur. Donc il y a plusieurs moments qui peuvent être en complément de l'autre, des activités dans la journée, pour un moment idéal pour utiliser écouter les podcasts.
Ouais, tout à fait, hein. Ça peut être, c'est ce que Benoît Marchal, hein, je le cite beaucoup parce qu'il m'influence beaucoup, il appelait ça les moments mobiles. Donc les moments mobiles, c'est quand vous êtes en train de vous promener dans la rue, quand vous allez au boulot, vous en revenez, quand vous êtes en train de courir, en train de faire du sport, en train de cuisiner, en train de passer l'aspirateur, peu importe, quoi. Là où il y a la magie de l'audio qui joue, c'est que l'audio ne vous demande pas d'être complètement captif. Vous pouvez faire quelque chose, avoir une activité. Alors que la vidéo, faut être le nez sur votre iPhone, sur votre écran d'ordinateur, sur votre télé, quoi. Alors que l'audio permet d'exploiter un petit peu ces moments, qui sont finalement un peu des moments vides, parce que j'habite à Saint-Mandé, je travaille à l'autre bout de Paris, quand je suis dans les horaires, c'est quasiment impossible de lire, quoi. Par contre, écouter un podcast, ce que je fais en général toujours, et le matin et le soir, c'est possible. Donc il y a ce réservoir finalement de temps qui est disponible, mais qui est pas tellement long finalement, hein. Tu parles de 20 minutes, effectivement, ça va être maximum 40 minutes par jour par personne, mais ce qui est déjà très important. Et quand on voit le nombre de personnes qui ont des petits écouteurs blancs dans les oreilles, dans le RER, dans le métro, n'importe où, partout dans la journée, on voit qu'il y a un bassin potentiel à joindre qui est énorme, hein. Et pourtant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le pourcentage de gens qui écoutent des podcasts est relativement faible, quoi. Alors qu'il y a un potentiel, une richesse d'écoute qui est énorme.
On sait que la France est particulièrement mordue par l'iPhone. C'était un des pays les plus pénétrés au monde. Donc, en tout cas, Pierre, toi qui m'as initié au podcast, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir de t'avoir à nouveau et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter.
Eh ben écoute, c'est à moi que ça fait plaisir, Minter. Si j'ai pu t'initier au podcast, alors moi je suis ravi.
Merci, Pierre.
Merci d'être resté avec nous pour écouter cet entretien avec Pierre Journel, un homme avec lequel je partage l'enthousiasme de la guitare et du podcasting. Vous trouverez dans les show notes sur minterdial.fr tous les sites dont a fait référence Pierre. Vous y trouverez également les autres entretiens dans cette série, dans laquelle il y a Fabrice Ebelboin, Fred Chevalier, Jacques Lanz, Anne-Sophie Bandry et tout récemment Michel Le Guermier, le fondateur de Photoways et Inspirational Stores. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, la marque sera en personne, où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. Bonne continuation.
Welcome, change agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.